Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
On travaille en ce moment avec nos auditeurs et avec toi sur l'Église, je crois, à la Sainte Église catholique, à l'article 9 du catéchisme. Est-ce que tu peux préciser d'où vient le mot « Église » Que veut dire le mot « Église »
Alors, le mot « Église » donc vient du grec « ecclesia » et « ekkalein », le verbe qui a provoqué ce substrat « Église », donc « ecclesia », signifie « appeler hors », et donc ça veut dire « convoquer ». C'est une convocation, donc c'est toujours bon de rappeler cela, par exemple pour expliquer à des personnes qui seraient tentées de ne regarder que l'émission du dimanche à la télévision, de leur dire attention, l'Église c'est quand même une convocation de Dieu, donc c'est pas le fait de rester chez soi, même si les moyens de transmission sont très bien, et on comprend très bien que des gens qui sont hospitalisés, qui sont dans des maisons de repos, sans pouvoir se déplacer, aient ce moyen substitutif. Mais rien ne remplace la présence réelle, la présence d'être là et de répondre à cette convocation. Donc c'était les saintes convocations du peuple de Dieu au désert qui existaient. Et ce kahal en hébreu a été traduit par les Septante par ecclésia. Et cette ecclésia est une convocation de Dieu pour l'entendre nous parler, pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour tout en nous instruisant, en nous édifiant. Et on comprend très bien que ces saintes assemblées du peuple de Dieu ont un caractère religieux. C'est pas seulement, je dirais, politique, parce qu'on pourrait faire des assemblées politico-religieuses. Par exemple, la mosquée est une assemblée politico-religieuse, il faut jamais oublier, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'État, la religion et la culture dans l'islam. Donc nécessairement, une assemblée dans une mosquée est une assemblée politico-religieuse. Donc faisons bien attention que nous sommes une assemblée purement religieuse. Et ça, c'est le grand service que l'Église donne à nos concitoyens qui peuvent ne pas avoir la foi. Nous ne les forçons pas. Nous rappelons que ce n'est pas optionnel d'aller le dimanche, sanctifier le dimanche à la messe en allant à l'Église, mais chacun est libre. Nous ne convoquons que par amour et cette convocation reste libre.
Et pourquoi Dieu ne nous enseigne pas individuellement chacun en disant frère Édouard, je te convoque et je te parle, et puis un tel autre frère Louis vient, je te parlerai à tel autre endroit. Pourquoi il s'oblige à rassembler un peuple, à nous mettre tous ensemble les uns à côté des autres pour nous parler ensemble?
Alors c'est le mystère d'un corps, si vous voulez, un corps a des membres différents et des fonctions différentes. Et donc, si nous sommes que des électrons libres, nous ne formerons jamais une réalité, je dirais, stable et palpable. Nous risquerions, comme dirait l'épître de Jude, d'être des astres errants, voués aux ténèbres perpétuelles. Et non, nous sommes un corps constitué, et nous ne sommes pas des électrons libres, nous sommes vraiment attachés les uns aux autres, et saint Paul d'ailleurs le dit très nettement, et dans l'épître aux Colossiens, qui est de plus en plus attribué à la paternité de saint Paul parmi les exégètes les meilleurs, et l'épître aux Éphésiens, qui peut-être est une copie un peu étendue pour une communauté pas très loin de Colosse, mais qui est Éphèse. Et dans les deux, on nous parle de tous ces ligaments, de tous ces liens qui nous relient les uns aux autres. Donc c'est important de les entretenir, ces liens. Si je ne les manifeste jamais, je risque de me disloquer et de m'individualiser. Or, la situation de notre Occident est très marquée par l'individualisme anglo-saxon. Et petit à petit, il a envahi même l'Europe plus, à l'est de l'Angleterre et la France. Nous sommes donc un peu entourés par deux grandes montagnes d'individualisme. L'Allemagne, qui a été très marquée par le luthérianisme et l'anglicanisme en Angleterre. Et cet individualisme dissout petit à petit l'idée de corps et fait que chacun, finalement, fait sa religion. Et puis, dans la société de consommation, on passe très vite après à chacun qui fait sa religion selon son point de vue, c'est-à-dire je prends ceci, je prends cela, je vais comme dans un magasin de consommation et puis je prends tel produit plutôt que tel autre, je fais ce que je veux, alors que être corps les uns des autres, on devient dépendant des uns des autres, il y a la tête, il y a le cœur, il y a les membres, chacun a sa fonction et on n'y fait pas n'importe quoi puisqu'on est liés les uns aux autres.
Et donc Dieu, en nous convoquant, en constituant un peuple, une église, nous rappelle qu'on a besoin les uns des autres.
On a besoin des uns des autres. C'est d'ailleurs, au moment où nous nous rassemblons, c'est le premier bienfait que nous recevons, c'est de reconstituer un corps visible de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps mystique de Jésus appelle, non pas à rester séparés et, des satellites, mais à être vraiment ceux qui sont les uns avec les autres, autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment du baiser de la paix qui a été restauré par la belle liturgie du Concile Vatican II, nous le rappelons. Il était déjà en usage, par exemple, dans les églises ambrosiennes. Le rite ambrosien l'avait conservé. Et nous saluons voisin avec voisin en nous offrant la paix du Christ pour nous rappeler que nous formons un corps. Donc c'est très important, ce baiser de paix qui nous le rappelle, que nous ne sommes pas des entités séparées, nous ne sommes pas des monades, comme dirait le protestant Leibniz. Nous sommes un corps lié les uns aux autres.
Et donc dans nos paroisses, nos églises, il faut qu'on entretienne cette dimension. Quand on arrive, il faut essayer de se saluer, ne pas oublier les prénoms les uns des autres, à la fin de la messe, prendre un peu de temps pour faire connaissance, essayer d'organiser des repas paroissiaux, tout ça, ça contribue à cette dimension du corps.
Ça contribue à cette dimension du corps, c'est tout à fait juste. Et si vous voulez, ce n'est pas seulement une assemblée qui chercherait une auto-sanctification, chacun viendrait se sanctifier. Je pense que, par exemple, Matteo Ricci, quand il est allé en Chine, il a dit que la religion catholique, c'était la Jiao Hui, c'est-à-dire la sainte religion. C'est pas faux. Mais si vous voulez, on oublie à ce moment-là cette idée à la fois de convocation et d'union les uns avec les autres. Un des grands définitions de l'Église qui avait été donnée autrefois par le Concile de Latran IV en 1215, donc c'est contemporain à la naissance des Dominicains, je vous rappelle, l'Église qui est un mystère d'unité, l'union de la charité dans la grâce. Et, vous voyez, on insiste beaucoup sur l'unité, sur l'union. Et si je dissous cet aspect d'unité et d'union, je perds beaucoup. Je risque plus que d'avoir une religion individuelle, privatisée. Et c'est sûr que un État qui veut dominer davantage sa population préférera toujours réduire les gens à une dimension purement privée. C'est plus facile de dominer des gens qui sont en situation privée plutôt que des personnes qui ont une dimension collective et qui le réclame par des processions, par des édifices, par un calendrier. Et tout cela, un État est très tenté de dominer davantage ses citoyens en les réduisant à une dimension purement privée. Donc il y a un danger, Aristote le note déjà. Qui a du pouvoir a tendance à abuser de son pouvoir. Et nos hommes politiques doivent passer donc au crible de cette attention.
Et donc quand on prend la voiture le dimanche matin pour aller à la messe, il faut qu'il y ait une espèce de joie au fond de nous qui dit on répond à un appel de Dieu.
Ah mais exactement, et pourquoi ne pas dans la voiture entamer déjà quelques chants de louange, quelques beaux chants grégoriens par exemple qui élèvent tellement l'âme vers le mystère auquel on adhère déjà et vers lequel on tend et qui va être fortifiée, renforcée. Il ne faut pas oublier que l'Eucharistie est un mystère de multiplication de grâce. C'est-à-dire que l'Eucharistie ne produit pas la grâce d'emblée, il faut le baptême, mais elle multiplie la grâce qui est déjà là. Et donc, si nous sommes débaptisés, ben, nous avons besoin que notre grâce soit multipliée. L'Eucharistie multiplie cette grâce, non seulement la grâce d'être là ensemble, de tisser des liens entre nous, mais aussi la grâce d'écouter mieux la parole de Dieu, d'entendre une prédication sacerdotale par un prêtre, d'entendre donc la voix de Dieu dans les différentes lectures, et puis assister et participer et nous offrir dans le sacrifice eucharistique, et finalement communier à ce sacrifice eucharistique. Tout cela multiplie la grâce en nous et nous donne la force pour la semaine qui continue. Hein. Je recommande beaucoup le texte Dies Domini, l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, qui avait donné une magnifique exhortation apostolique vers les années 1985. Lisez-la, on peut la voir sur le site du Vatican, vatican.va. Lisez Dies Domini et vous aurez beaucoup de joie à participer aux Eucharisties hebdomadaires.
Ah, très bien. Tu aurais un exemple de convocation par Dieu dans l'Ancien Testament, par exemple, qui pourrait nous aider à nous dire le dimanche, on fait un peu comme ce qui a été fait dans l'Ancien Testament?
Oui, alors de fait, dans l'Ancien Testament, eh bien, on le voit au cours de l'Exode, il y a ces appels sans cesse de Dieu fait à Moïse pour l'instruire. Et on nous explique la construction de la tente pour que ce lieu soit saint et un peu réservé, si vous voulez. Tout le monde n'y rentrait pas, je dirais, parce que ça aurait été la cohue. Et puis d'autre part, tout le monde n'était pas assez sanctifié pour rentrer dans cette tente. Donc il y a comme une sorte de gradation qui est faite par rapport à Moïse et le sacerdoce qu'il met en place, qu'il délègue à son frère Aaron. Et petit à petit, il y a une hiérarchie qui se met en place. Ben, on voit bien ça aussi dans nos églises. Il y a une sainte hiérarchie. Tout le monde ne va pas à l'autel. Tout le monde ne court pas à droite, à gauche. Il y a des places. Il y a un ordre, si vous voulez, pour arriver, je dirais, au Sinaï. Et au Sinaï, Moïse monte, mais il monte aussi avec un groupe d'élus, un groupe de personnes qui sont aptes à recevoir les saintes, je dirais, prescriptions du Seigneur. Et la nuée est là, et les anciens montent avec Moïse, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Par exemple, au chapitre 24, Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites. Ils s'étaient purifiés, ils s'étaient préparés. Hein. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et purent. Ben, c'est la préfiguration de l'Eucharistie.
Eh ben merci, frère Edouard. Alors, vivement dimanche.
Vivement dimanche.